reçu les paroles données de manière humble et prophétique, de toute façon, voilà, comme parole du Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes ces paroles qui ont été données et toutes ces paroles qui ont été reçues, Seigneur, qu'elles puissent porter le fruit qu'on attend lorsque ta parole est annoncée. Seigneur, merci parce que tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Et Seigneur, merci parce que ce matin tu as parlé de manière simple, mais aussi de manière directe aux uns et aux autres. Seigneur, accompagne ta parole par ton esprit. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler non pas de feria, n'est-ce pas ? Je vais vous parler du Saint-Esprit, puisque nous sommes à Pentecôte. Je ne pouvais pas laisser passer ce moment pour en parler, mais je vais vous en parler non pas de manière individualiste, parce que souvent, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on pense simplement au charisme, ou on pense le Saint-Esprit et moi, comme Dutronc disait, 200 millions de Chinois et moi et moi. Voilà. Et là, je voudrais plutôt qu'on puisse prendre de la hauteur ensemble et voir quel est le rôle et le ministère du Saint-Esprit, je dirais, tout au long de l'histoire de la rédemption. Quand des touristes arrivent dans une ville, il n'est pas rare qu'ils cherchent à un endroit élevé pour avoir une vue d'ensemble de la ville. Alors à Nîmes, si vous voulez, si vous êtes de passage, bienvenue d'abord. Si vous êtes de passage, vous voulez voir une vue d'ensemble de Nîmes, eh bien, allez sur la Tourmagne et vous allez avoir un beau point de vue sur la ville. Si vous allez à Paris, vous allez monter à la Tour Eiffel, bien sûr. Si vous allez à Jérusalem, je ne me rappelle plus, la tour que l'on monte, Chantal. La Limca, voilà. Donc, une tour qui est en plein centre de Jérusalem et qui permet de voir toute la ville de Jérusalem. Alors, ce que je demande au Seigneur ce matin, pour nous, ensemble, c'est qu'il nous amène ensemble, pas simplement de manière individuelle, mais ensemble, dans une vision de hauteur par rapport à l'œuvre et au rôle du Saint-Esprit, par rapport à l'œuvre et au rôle de Dieu, le Saint-Esprit, et qu'ensemble, en prenant de cette hauteur émerveillée, nous soyons embarqués avec le Saint-Esprit dans son dessein et dans son plan. Il est dommage que dans la vie chrétienne, on pense toujours de manière individuelle. Alors c'est vrai que le Seigneur, quand il est venu nous chercher, il a laissé les 99 brebis qu'il avait et qu'il est venu nous chercher de manière personnelle. C'est comme ça qu'il fait. Mais lorsque la brebis est retrouvée, il la remène auprès des 99 autres. Et il a 100 brebis. Et cette brebis, eh bien, elle est honorée parce que le Seigneur a tout délaissé pour aller la chercher. Et puis en même temps, elle découvre une nouvelle famille. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir dans la vie chrétienne. C'est comme ça qu'on doit réfléchir dans la foi. Le Seigneur s'occupe de nous personnellement, mais il s'occupe aussi d'un plus grand ensemble. Il vient nous chercher, il vient nous parler de manière individuelle, mais il nous ramène dans un plus grand ensemble. C'était une petite introduction. On va prendre de la hauteur, réfléchir ensemble sur ce que le Saint-Esprit fait, et puis après, on viendra sur ce que le Seigneur fait de manière individuelle par rapport au Saint-Esprit dans nos vies. On a coutume de dire, et vous avez sûrement entendu dire, que le ministère du Saint-Esprit a commencé au moment où celui de Jésus a pris fin. C'est pas français, ça, si ? Si, ça va ? T'as compris. Merci, merci Gérard. Mais ceci, je dirais, est une vue simpliste, réductrice, une vue au ras du sol. Parce que le Saint-Esprit, en fait, on le voit du début jusqu'à la fin dans la Bible. Dès les premiers versets de la Bible, le Saint-Esprit est là. Et je vous propose simplement de le lire. Chapitre 1 du livre de la Genèse, les versets 1 et 2. Ceux qui n'ont pas l'habitude de tourner les pages dans la Bible, eh bien, c'est des premières pages, hein, le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Certaines traductions vont traduire le littéral tohu et bohu. Hein. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alors nous voyons que dès le début de la Bible, eh bien, l'Esprit de Dieu était là. Il participe à l'œuvre de la création. Il plane sur la surface des eaux, au-dessus de l'informe et du vide, au-dessus du tohu-bohu. Un des pères de l'Église, qui s'appelle Basile de Césarée, commente ce verset. Le Père est la cause originelle de toute chose. Le Fils est la cause créatrice. Il a créé toute chose par sa parole, il nous est dit dans le prologue de l'Évangile de Jean. Et l'Esprit Saint est la cause du perfectionnement. J'aimerais que vous reteniez cette idée que l'Esprit Saint est la cause du perfectionnement. L'Esprit, en tant que cause de perfectionnement de la création, est celui qui permet aux choses créées de devenir ce pourquoi elles ont été créées, pour accomplir leur but créé et de rendre gloire à Dieu dans leur perfectionnement. Entre le verset 1, où nous voyons que Dieu a créé toute chose, créa le ciel et la terre, et entre le verset 2, où on voit que les choses étaient informes et vides, il y a l'Esprit de Dieu qui plane et qui amène à leur perfectionnement cette création. Alors retenez cela, je n'ai pas eu le temps de le mettre sur la diapo, mais je fais appel à votre mémoire. Alors nous ne sommes pas des Africains qui ont une mémoire très importante, mais retenez ceci. L'Esprit en tant que cause de perfectionnement de la création est celui qui permet aux choses de devenir ce pourquoi elles ont été créées, pour accomplir leur but créé et rendre gloire à Dieu dans leur perfectionnement. Alors d'autres textes nous présentent l'Esprit comme celui qui préserve et qui maintient la vie de la création entière. L'Esprit Saint est celui qui anime la création. Par exemple, dans Job, on nous dit, c'est Élu qui parle à Job, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Dans d'autres psaumes, le psaume 104, tu caches ta face, Seigneur, ils sont tremblants. Tu retires le souffle, tu retires ton esprit, ils expirent et retournent dans la poussière. Tu envoies ton esprit, tu envoies ton souffle, et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. L'Esprit Saint est au début de la création, agissant dans la création. Et il va, lorsqu'on tourne les pages de la Bible, et je vous invite à tourner les pages de la Bible parce que c'est quelque chose de merveilleux lorsqu'on découvre comment Dieu agit avec son peuple, comment Dieu intervient dans l'histoire des hommes, bien on s'aperçoit que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans toute l'œuvre de la rédemption. Qu'est-ce que c'est l'histoire de la rédemption? Qu'est-ce que c'est? C'est tout le mouvement de Dieu et l'action de Dieu dans l'histoire des hommes en vue du salut de l'humanité et celle de la création entière. Car effectivement, après le chapitre 1 et après le chapitre 2, il y a le chapitre 3 du livre de la Genèse, où on s'aperçoit que l'homme a désobéi à Dieu. Et on a ce qu'on appelle le récit de la chute d'Adam et de Ève. Et entraînant leur chute, entraîne toute la création. La désobéissance et la chute d'Adam a perturbé toute la création. L'apôtre Paul dit que la création entière soupire et attend la rédemption. Vous savez quoi? Dieu n'a pas dit son dernier mot après la chute. Il n'a pas dit « Les hommes ne veulent pas de moi, alors je les lâche. » Non, et bien au contraire, Dieu fera tout pour récupérer et sa création et sa créature. Dieu se met en mouvement, Dieu se met en marche, c'est la mission de Dieu. On a eu il y a quelque temps Stewart Johnson de la mission Wycliffe qui nous a parlé de cette mission, la Missio Dei. Dieu va appeler un homme, Abraham, à partir d'Abraham il va créer une nation, par laquelle il va bénir le monde. Vous connaissez cette promesse que Dieu a faite à Abraham ? Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Pas simplement que pour toi, pour toute la terre. Dieu se met en mouvement, choisit un homme, choisit un peuple pour bénir sa création et l'humanité. Et tout au long de l'histoire biblique d'Israël, telle que l'Écriture nous la raconte, nous lisons et nous voyons l'œuvre de l'Esprit qui prend soin de son peuple témoin. Et par exemple, en Ésaïe 63, il nous est dit que c'est l'Esprit de l'Éternel qui les a menés au repos. C'est l'Esprit Saint qui a donné des conducteurs compétents au peuple d'Israël. Par exemple, les 70 anciens du peuple d'Israël reçoivent l'Esprit qui était sur Moïse. Les juges saisis par l'Esprit de Dieu, il nous est dit dans le livre des juges que l'Esprit était sur un tel ou un tel. Nous avons les rois qui reçoivent une onction spéciale en tant que roi. Lorsque Dieu veut manifester sa présence au milieu du peuple d'Israël, il choisit des artisans qui sont remplis de l'Esprit de Dieu pour construire le tabernacle. Betsalel, par exemple. Lorsque Dieu veut que le peuple construise le temple, eh bien, il s'est marqué que c'est l'Esprit qui a donné le plan du temple à David. C'est l'Esprit Saint qui va permettre aux exilés de remettre le temple en état après sa destruction. Le temple était en ruine, la gloire de Dieu était partie, les rapatriés, les exilés recommencent à construire le temple, mais ils abandonnent parce que la tâche est lourde, parce qu'ils ont des difficultés. Des prophètes se lèvent, et qu'est-ce qu'on entend ? Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Retournez au travail. Retournez au travail. Il y a vraiment la présence de l'Esprit de Dieu tout le long, je dirais, de l'Ancien Testament, de l'histoire biblique, dans l'histoire de la rédemption qui nous a amenés à Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela ? Pourquoi nous intéresser à l'histoire biblique d'Israël et au rôle de l'Esprit de Dieu ? Pour nous rappeler, mes amis, vous qui êtes ici, qui m'écoutez, que nous sommes dans la vague de l'histoire du salut, encore. Dieu n'a pas renoncé à sauver le monde. Dieu cherche les perdus depuis toujours, et il le fait en suscitant des hommes en qui l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il y a une histoire de la rédemption, et cette histoire passe aussi par nous, par vous, par moi. Et nous sommes dans cette vague qui commence par Abraham et qui avance par l'Esprit de Dieu et qui la perfectionne et qui va l'amener à son accomplissement. Un jour, la terre entière sera à Dieu. Elle est à Dieu déjà, si vous voulez, elle est souverain. Mais un jour, cette terre sera renouvelée entièrement. Le projet de Dieu sera réalisé en bout. Alors non seulement nous sommes dans cette vague, mais nous sommes nous-mêmes cette vague, si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Israël n'est pas simplement une communauté de mémoire, mais c'est aussi une communauté d'espérance. Et les prophètes vont annoncer une restauration, une guérison, un renouvellement, pas seulement pour Israël, mais pour l'humanité, et même une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Une nouvelle humanité avec un cœur changé, sous la conduite du serviteur de l'Éternel, un nouveau David, loin du Seigneur, le Messie. Et vous savez quoi ? Là encore, le Saint-Esprit joue un rôle primordial. Lors de l'annonce du Messie, dans Ésaïe chapitre 11, il nous est dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dans Ézéchiel, où il y a cette grande prophétie de la restauration, il nous est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, J'ôterai de vous le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous. Et la prophétie de Joël qui concerne l'effusion de l'esprit, la plus célèbre d'entre toutes les prophéties, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé à Pentecôte ? Réalisation de cette parole donnée à Joël. Alors, lorsque l'espérance est morte, lorsque l'avenir semble bouché, mes amis, nous sommes appelés à nous tourner vers les promesses de Dieu et de savoir et de confesser que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour amener à la perfection l'œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Merci. La création, histoire biblique d'Israël, histoire de la rédemption, promesse annoncée, promesse réalisée, le Messie est venu, Dieu le Fils est incarné. Et là encore, dans cette incarnation, le Saint-Esprit a continué d'agir. Marie a enfanté Jésus, a conçu Jésus par le Saint-Esprit. Dans tous les moments importants de la vie de Jésus, l'Esprit-Saint était là. Au moment du baptême, l'Esprit-Saint est venu reposer sur lui comme une colombe. Au moment de sa tentation, lorsque c'est le Saint-Esprit qui le pousse dans le désert pour y être tenté. Au moment de sa prédication, au moment de ses œuvres puissantes de guérison, au moment de sa mort et de sa résurrection, le Saint-Esprit était là. À chaque moment, le Saint-Esprit était là. Mais à la Pentecôte, il y a un grand renversement qui apparaît. Jésus monte aux cieux, il est glorifié, il est assis à la droite de Dieu et il déverse l'Esprit selon les promesses qui ont été données dans l'Ancien Testament. Il déverse l'Esprit comme Joël l'avait prédit. Et vous savez quoi ? L'Esprit répandu continue le témoignage du Christ à travers les disciples du Christ. C'est toujours la mission d'Ei, c'est toujours la mission de Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait renouvellement de terre et de ciel. Il y a toujours la mission de Dieu à l'œuvre. Et aujourd'hui, c'est par le corps de Jésus, le corps de Christ, qu'il continue sa mission. Et le Saint-Esprit va amener à la perfection, à son accomplissement, le plan divin dans sa grâce par nous. Par nous. Alors mes amis, vous voyez, c'est quelque chose qui nous dépasse. Dieu nous embarque avec lui dans son plan divin pour la reconquête du monde. Dieu nous embarque ensemble pour sa mission. Dieu s'intéresse à l'individu, mais Dieu s'intéresse au peuple. C'est ensemble que nous participons à sa mission. Vous auriez aimé peut-être entendre dire ce matin, Dieu prend soin de toi, Dieu veut te bénir, Dieu veut te chercher, Dieu veut te guérir. Vous auriez aimé ça, peut-être. Et il l'a fait, hein, d'ailleurs. Mais ce matin, je pense que Dieu veut nous faire découvrir quelque chose de plus. Il veut nous faire prendre de la hauteur. Nous sommes ensemble embarqués dans le plan de Dieu pour la mission de Dieu dans le monde que Dieu veut reconquérir. Nous y sommes embarqués, les uns et les autres. Alors, parlons de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'individu, bien sûr. On va terminer par là. Quand nous naissons de nouveau, quand il y a cette grâce de la nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit qui fait de nous de nouvelles créatures. Il nous incorpore, le Saint-Esprit, au corps de Christ. Nous devenons le temple du Saint-Esprit de manière individuelle et de manière communautaire. Le Saint-Esprit travaille en nous en nous mettant les désirs de l'Esprit, en nous transformant de l'intérieur, en nous faisant porter le fruit de l'Esprit, en nous rendant semblables à Jésus. Ça, c'est le programme que le Saint-Esprit a pour chacun d'entre nous. C'est un bon programme, non ? Il va se débarrasser de tout ce qui nous entrave. Il est en train de le faire. De tout ce qui nous maintient en esclavage. Et il est en train de le faire. Il veut se débarrasser de toutes nos... Comment ça s'appelle ? Lorsque l'apôtre Paul a été aveuglé, il est sorti. Des écailles, voilà, les écailles. Il veut se débarrasser de toutes nos écailles qui empêchent de le voir. Il est en train de le faire. Il nous rend semblables à Jésus-Christ. Du coup, je serai un peu plus vivable pour certains. Et il nous rend efficaces. Il nous rend efficaces, puissants au travers des dons de grâce de l'Esprit. Il nous rend utiles pour le corps de Christ. Et il nous donne les dons comme il veut, pour son corps, pour l'utilité de son corps. Merci Seigneur pour les paroles prophétiques qui nous ont été données. Cela a été utile ce matin. Et il donne sens à notre vie. Je ne suis plus un électron isolé. Je ne suis plus Norbert infirmier. Je ne suis plus Norbert pasteur. Il m'a amené dans son plan. Je fais partie de son plan. Moi ça, j'ai envie de me mettre à genoux simplement pour ça, pour remercier Dieu, pour cette grande vision qu'il a sur ma vie. Rappelez-vous, l'Esprit, en tant que cause de perfectionnement de la création, est celui qui permet aux choses de devenir ce pour quoi elles sont créées, pour accomplir leur but, c'est-à-dire de rendre gloire à Dieu dans leur perfectionnement. Un jour, je parlais avec des jeunes que je recevais à la maison, ou non, c'était à l'espace Séguier, il me semble. Et je disais, à quoi ça sert un frigo ? À quoi ça sert un frigo ? Hein ? À conserver la bière fraîche ? Et si le frigo fait du chaud, ça ne sert à rien. Lorsque l'homme a été séparé de Dieu, de son vrai but, il est devenu comme un frigo qui fait du chaud. Parce que le vrai but de l'homme, c'est de célébrer la gloire de Dieu. Et lorsque l'homme s'est détourné de Dieu, il est devenu comme un frigo qui fait du chaud. Il est plus bon qu'à mettre à la poubelle. Au recyclage, pardon. Au recyclage. Alors le Saint-Esprit qui nous pousse vers le perfectionnement, le Saint-Esprit m'amène à grandir ce vers quoi, pourquoi j'ai été créé. N'est-ce pas beau ? C'est un bon programme ça. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Une dernière chose, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus. C'est comme s'il mettait les projecteurs sur Jésus. C'est comme si l'Esprit se tenait derrière nous, jetant la lumière sur Jésus qui se tient en face de nous. Le message que l'Esprit va donner ne sera pas « Regardez-moi, écoutez-moi, venez à moi, apprenez à me connaître. » Mais il va dire « Regardez-le, voyez-le, écoutez-le. » Voyez sa gloire, Apprenez à le connaître. Apprenez à écouter sa parole. Allez vers lui. C'est ça ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. C'est l'expérience d'Étienne. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixe les regards vers le ciel et voit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, il voit Jésus. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il nous fait regarder à Jésus. Si vous allez dans un théâtre et que vous regardez les projecteurs, vous ratez le but de ce pourquoi vous êtes allé au théâtre. Quelqu'un a dit que au sein de la Trinité, le Saint-Esprit, c'est la personne altruiste, celle qui met les regards vers le Père et vers le Fils. Alors oui, effectivement, nous avons à rechercher à être remplis du Saint-Esprit selon Éphésiens chapitre 5. Ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'Esprit. Vous savez à qui Paul s'adresse ? Il s'adresse à une communauté, pas à des hommes individuels. Ne cherchez pas à être remplis de l'Esprit pour avoir simplement quelque chose d'émotionnel. Recherchez à être remplis de l'Esprit pour accomplir ce pourquoi Dieu vous a destiné. Donc c'est une recherche communautaire d'être rempli de l'Esprit. D'ailleurs, il nous est dit, suite, après, soyez remplis de l'Esprit, chantez ensemble, entretenez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit en tant que communauté. Demandez au Père de nous donner l'Esprit. Quelqu'un a dit que sans le Saint-Esprit, il ne nous reste qu'une fois décaféiné. C'est joli, hein, je trouve. Qu'une fois décaféiné. Parce que sans le Saint-Esprit, Dieu reste lointain. Le Christ, il est dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité que donne le Saint-Esprit devient de la domination. La mission, c'est que de la propagande. Et donc, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, alors vous allez trouver des bouquins. Trois clés pour être rempli du Saint-Esprit. Un autre bouquin vous en donnera sept. Un autre, peut-être, vous en donneront plus. Pour être rempli du Saint-Esprit, je pense qu'il faut aller dans une attitude d'obéissance, tout simplement. Et d'obéissance à la mission de Dieu. Lorsque les apôtres, après avoir été mis en prison, reviennent au sein de leur communauté, ils ont prié et ils ont dit, « Seigneur, donne-nous l'audace d'annoncer ta parole. » Ils ne s'adressent pas au Saint-Esprit, ils s'adressent au maître de l'univers, au Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et ils s'adressent, « Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. » Ils avaient le choix d'obéir aux autorités du Sanhédrin, de s'arrêter de parler, où ils avaient le choix d'obéir à Dieu. Ils étaient dans l'obéissance, on veut obéir à Dieu. Et à ce moment-là, il est marqué qu'ils furent tous remplis de l'Esprit. Et lorsque l'Église s'engage dans un chemin d'obéissance à la mission de Dieu, eh bien le Seigneur remplit de l'Esprit. Et nous sommes remplis de l'Esprit. Alors mes amis, demandons au Seigneur d'être remplis de l'Esprit. De manière communautaire, de manière individuelle, sachant que ce n'est pas simplement pour nous personnellement, bien qu'il y ait un travail du Seigneur à l'intérieur, mais c'est vraiment pour la communauté. Et au-delà de notre communauté, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas la seule communauté à Nîmes. Je vous propose de vous lever. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Mais tu es le Dieu aussi, Seigneur, qui a un plan, un dessein. Te désire le monde pour toi. Et Seigneur, tu as envoyé ton Fils qui a accompli cette mission. Seigneur, nous sommes dans l'entre-deux. Nous ne voyons pas que toutes choses te sont soumises, mais pourtant nous te voyons par la foi couronné de gloire et d'esprit, gloire et d'honneur. Seigneur, nous avons besoin d'être remplis de toi, remplis de toi, Saint-Esprit. Et nous voulons te demander, Père, envoie-nous, remplis-nous à nouveau, ensemble, pour que nous puissions accomplir la mission à laquelle tu nous as appelés. Que individuellement et communautairement, nous soyons les uns avec les autres, Seigneur Jésus, émerveillés par la splendeur de ton plan. Seigneur, un jour, nous verrons que toutes choses te sont soumises. Nous le voyons déjà par la foi, nous le verrons vraiment en réalité. Seigneur, conduis-nous à rechercher, à être obéissants à ta parole, à nous débarrasser de tout ce qui entrave notre marche avec toi. Seigneur, à toi la gloire dans l'Église et dans nos vies. Amen. Amen. Soyez bénis.